engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
D'après le doctorant de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, Nicolas Fischer, la rétention administrative est la forme unifiée et modélisable de mise à l'œuvre de gestion de population. En outre, il s'agit d'un établissement visant à briser la liberté de mouvement des personnes considérées comme étrangères. Depuis le début des années 2010, la systématisation de la rétention s'est accrue, avec un point d'orgue en 2024, avec la loi Darmanin. En ce mois de mai 2026, les associations présentes dans les centres de rétention administrative, dits CRA, ont publié leur rapport annuel sur la rétention administrative. L'édition 2025 du rapport expose et illustre les effets des récentes réformes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Parmi les réformes récentes, il peut être cité le durcissement des conditions d'octroi ou de renouvellement des titres de séjour, la systématisation des obligations de quitter le territoire, la fin des mesures protégeant certaines catégories de personnes de l'expulsion, la facilitation de la prolongation des rétentions, l'allongement de la durée de rétention, l'assimilation de l'étranger irrégulier et du délinquant, et cela, quelles que soient les circonstances de l'irrégularité. En somme, le durcissement des conditions d'existence des étrangers sur le territoire français a eu un effet notable sur l'enfermement administratif. Pour dénoncer l'escalade de l'enfermement, le groupe local orléanais de la CIMAD a organisé la projection du film documentaire « Devant, contre-champ de la rétention ». L'événement s'est tenu le 12 juin au cinéma des Carmes avec la présence de la réalisatrice Annick Redolfi.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Bonjour auditeurs, auditrices, on se retrouve au cinéma des Carmes après la projection d'un film qui est intitulé « Devant, contre-champ de la rétention ». Et pour en parler, je suis avec la réalisatrice Annick Redolfi. Bonjour Annick.
Bonjour.
Ce film documentaire, il prend place devant le CRA de Vincennes. Tu as pu en parler durant le débat qui a suivi la projection du film, mais j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur les circonstances qui t'ont amené à travailler sur la rétention administrative et, de manière très spécifique, pourquoi avoir choisi de suivre le public dit visiteur de ces centres.
Alors, tout simplement, je me suis intéressée aux visiteurs parce que, déjà, il y a eu un interdit de filmer dans le centre de rétention. Donc, bon, ce que je l'expliquais tout à l'heure, j'ai été un peu interpellée par... je suis sensible à la question des sans-papiers depuis très longtemps et j'ai été interpellée quand j'ai entendu en 2008 que le centre de rétention de Vincennes avait brûlé. Et que c'était les retenus eux-mêmes qui avaient mis le feu à leur prison parce que l'un d'entre eux était mort par manque de soins. Ce qui a provoqué une révolte, mais cette révolte couvait depuis très longtemps. Il y a régulièrement des révoltes dans les centres de rétention et pour cause, puisque c'est des lieux qui ne devraient pas exister et qui sont source de beaucoup de violations de droits. Donc j'ai décidé de faire un film sur le centre de rétention, mais je n'ai pas eu l'autorisation de filmer dans le centre de rétention. Et donc, je me suis rapprochée des observateurs du centre de rétention. Je suis devenue observatrice moi-même. J'ai effectué des visites retenues dans le centre. Et je m'interrogeais sur quelle forme pourrait prendre le film. Est-ce qu'il fallait que je passe les observateurs qui racontent l'intérieur? Et en fait, en allant là-bas, en passant du temps, quand on attend son tour de visite, on passe du temps dans cette espèce de petite cabane déglinguée au fond du bois de Vincennes, qui ressemble à un abribus où aucun bus ne passe jamais. On rencontre les autres visiteurs et visiteuses qui viennent là. Et beaucoup de choses s'échangent, aussi bien des conseils que des récits, des parcours de vie. Et je trouvais que c'était une scène formidable pour raconter la rétention autrement, en contre-champ, certes, mais dans une version presque plus large aussi, puisque la rétention, finalement, on comprend que c'est pas seulement les personnes qui sont enfermées qui sont touchées par cette privation de liberté, mais également leurs proches, leurs familles, leurs parents, leurs amis, leurs collègues. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai décidé... j'ai testé, et si ça passait, parce qu'on est juste devant le centre de rétention, les policiers, évidemment, étaient un peu choqués de me voir à une caméra, mais ont accepté ma présence tant que je ne les filmais pas, eux. Voilà, donc le dispositif s'est imposé par la contrainte, mais il a permis d'ouvrir sur autre chose.
Et oui, et vous en avez parlé durant cette présentation. Vous avez notamment dit que vous avez essayé de mettre en avant l'impact sur les familles et surtout à quel point le placement en rétention d'une personne peut briser des familles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, nous en parler un petit peu de de cet impact qui va au-delà de la personne enfermée ?
Oui, bien sûr. J'ai rencontré des mères, des pères, des femmes, des frères, des sœurs, des cousins, des collègues. J'ai rencontré toutes les familles des retenues, puisque moi j'étais pas dedans, j'étais dehors. C'est les proches qui viennent, c'est les familles. Parce qu'en fait, il y a un espèce de biais médiatique qui fait croire que les gens qui sont enfermés sont des gens dangereux, totalement illégaux. Ça donne une image complètement erronée de la réalité. Les personnes qui sont enfermées, ce sont des personnes qui parfois n'ont jamais eu de titre de séjour, néanmoins peuvent être quand même en France depuis longtemps et travailler et cotiser, mais aussi ce sont des gens qui ont eu des titres de séjour et qui les ont perdus pour souvent un bug administratif. Alors aujourd'hui la situation s'est encore aggravée, c'est-à-dire que des gens parfaitement insérés, travaillant, etc. peuvent se retrouver sans titre de séjour parce que la dématérialisation pousse les personnes dans des situations administratives très très complexes, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les personnes enfermées, ce sont des gens qui vivent en France, qui travaillent en France, qui ont de la famille en France, parfois depuis longtemps, et qui malgré tout n'arrivent pas à se faire régulariser parce que c'est devenu à peu près quasiment impossible d'obtenir une régularisation aujourd'hui.
Effectivement. Et du coup, c'est pas la première projection que vous faites, vous l'avez présentée, vous avez notamment parlé de Béziers et d'autres endroits. La question que je me posais, c'est quels ont été les retours du public, justement. Est-ce que, comme vous, c'est un public très informé, parce que vous l'avez démontré aujourd'hui, vous êtes très informé sur le sujet. Mais du coup, est-ce que le public était aussi informé que vous, ou vous êtes retrouvé avec des personnes qui disaient « Ah, je savais même pas que ça existait ». Quelles ont été les réactions publiques ?
Alors, quand c'est des projections organisées comme ici par des associations comme la CIMAD, c'est vrai que le public qui vient est un public déjà averti, qui connaît parfaitement la situation. Néanmoins, il y a toujours à apprendre, et les uns des autres. Moi aussi j'apprends beaucoup grâce à vous. En revanche, c'est vrai que j'ai fait cette expérience étonnante quand le film est sorti en salle. C'est un peu automatique, on sort dans un cinéma parisien du centre, moi c'était l'espace Saint-Michel, et donc c'est le genre de petit cinéma où les cinéphiles vont un peu par hasard sans savoir forcément ce qu'ils vont voir, et sont ainsi arrivés dans le public des personnes qui ne connaissaient absolument rien au centre de rétention et qui découvraient une réalité qui les choquait. Et j'ai eu à plusieurs reprises des spectateurs et spectatrices qui m'ont dit « Mais je suis choquée de la réalité que je découvre et tous les Français devraient voir le film ». Je suis bien d'accord avec eux.
Vous en avez parlé un petit peu aussi des conditions dans lesquelles vous avez pu tourner ce film documentaire. Le fait que notamment les policiers ne voulaient pas être filmés, que voilà, il y a eu, vous connaissez le droit pour filmer dans les espaces publics et malgré tout on vous demande des autorisations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça, de ces conditions de tournage devant un centre de rétention qui sont quand même des lieux qu'on cherche à cacher et que vous avez quand même, sans le montrer, visibilisé?
Tout à fait. Oui, la règle d'ailleurs que je tire de cette expérience, c'est qu'il faut toujours défendre son droit à l'image, il faut connaître son droit, ses droits, et les défendre face à des policiers qui soit ignorent la loi, surtout le droit à l'image, hein, ça les intéresse pas trop, soit feignent de l'ignorer. J'ai entendu beaucoup de choses très aberrantes du type... J'ai évidemment fait quelques images du centre de rétention sans y être autorisé. Je prenais mes précautions quand j'allais faire ces images parce que je savais très bien que pour telle image de grille ou de barbelé, il y a des caméras partout, des miradors. Je savais qu'ils allaient me voir et qu'il leur faudrait 5 à 10 minutes pour arriver jusqu'à moi. Donc je savais que j'avais pas plus de 5 minutes pour faire un plan et qu'il fallait pas trop que j'insiste sur mes droits auprès d'eux quand ils allaient venir m'interdire de continuer parce qu'ils pouvaient me faire effacer ma carte. Comme ça a déjà été le cas, ils m'ont déjà demandé d'effacer des images. Donc voilà, il a fallu sans arrêt se battre pour faire valoir son droit. Alors au début, j'ai pu par une espèce de miracle filmé. Je leur ai rappelé la loi, c'est-à-dire que je suis dans un lieu public, une équipe de moins de 10 personnes, je ne gêne pas la circulation, c'est pas une scène de crime, il n'y a pas de comédien déguisé, etc. Donc ça, c'est les règles qui font que j'ai le droit de tourner sans autorisation. Au début, quand j'ai commencé à filmer, voilà, leur inquiétude aux policiers, c'est que je ne les filme pas eux et que je ne filme pas le centre de rétention. Donc j'aurais dit, ça tombe bien, c'est pas vous qui m'intéressez, c'est les visiteurs, ils sont de l'autre côté. Mais ils me surveillaient sans arrêt, moi et ma collègue. Hein, ils avaient, à chaque fois qu'on était là à filmer, il y avait toujours quelqu'un pour nous surveiller, et si la caméra tournait de leur côté, ils nous le faisaient remarquer. Donc bon, il y a quand même 2-3 plans qu'on a réussi à faire où ils ne se rendaient pas toujours compte de quel focal on filmait. Alors oui, alors ça ils ont pas percuté, je pense que ça devait pas le miroir le miroir qui est un miroir de signal, enfin comment on appelle ça, un miroir de pour le parking en fait, pour aider les voitures, voilà ça. Mais également il y a un plan vers la fin du film où on voit vraiment tout l'accueil avec les grilles, la guérite des policiers, la cabane en face, et ce plan là ils ont pas repéré qu'on le faisait, sans doute parce que c'était le matin, ils devaient pas être réveillés, et que la caméra était tourner de telle façon à ce qu'ils ne pensent pas qu'on filmait cette scène-là, mais l'angle était suffisamment large pour avoir plus. Voilà, il fallait, c'est vrai qu'il a fallu être malin, quoi, des fois, et puis surtout se battre et réaffirmer sans cesse son droit d'être là. Oh, j'ai réussi à faire ma place pendant des années. Je ne vous cache pas qu'il y avait certains jours, les équipes de police n'étant pas les mêmes, les visiteurs le sentaient, et nous aussi. Il y avait des équipes de police plus sympas, on va dire, et d'autres moins sympas. Et des moins sympas, par exemple, nous empêchaient de prendre trop de recul jusqu'à la barrière pour filmer en face. Ils nous obligeaient de rester de l'autre côté de la route, qui était pour moi une espèce de frontière floue. J'avais parfaitement conscience que j'étais sur une frontière floue et que c'était un peu limite, qu'il fallait faire attention c'était compliqué. Jusqu'au jour où, quand la préfecture s'est mêlée de l'affaire un peu par hasard, elle a décidé de mettre un interdit et de m'obliger à avoir une autorisation dont je n'avais pas besoin, mais qu'il a fallu que je demande, qu'on ne m'a pas donné, et puis qu'on nous a donné quand on a pris un avocat et on a pu terminer le film. Et c'était... ça a été une belle expérience de... Le droit à l'image doit se défendre, même s'il est inscrit dans la loi, il faut le défendre. Et de toute façon, les lois ne cessent de bouger, d'essayer d'entamer ce droit-là. Donc voilà. Et j'encourage tous les cinéastes, les jeunes et les moins jeunes, à toujours se battre pour faire respecter, à connaître ces droits et à les faire respecter.
Et ça me permet d'enchaîner avec justement une question que je voulais vous poser sur dans le film, on le voit un moment, un collectif qui se mobilise devant le CRA pour libérer quelqu'un. Et je voulais justement vous demander, vous questionner sur la place de la force du collectif dans la lutte contre les CRA, contre l'enfermement de personnes jugées illégales.
La lutte du collectif, elle est essentielle. La scène à laquelle vous faites référence, c'est quand le jeune lycéen Hassen, arrivé en France mineur et puis qui s'est retrouvé majeur, a été interpellé à Barbès et s'est retrouvé enfermé. Et donc, dans le film, on voit ses profs et ses copains du lycée qui sont là, qui sont venus lui rendre visite. Et ça énerve les policiers, d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de visites pour lui. Et c'est vrai que là où ça a beaucoup joué, donc il y avait non seulement le lycée, mais il y avait aussi des observateurs du centre de rétention de Vincennes qui étaient là, la Ligue des droits de l'homme, etc. Et là où ça joue beaucoup cette mobilisation, c'est au tribunal administratif. Le juge administratif, et j'ai été plusieurs fois, et pour d'autres personnes, est sensible. En fait, le juge administratif, à la différence du JLD, qui est le juge des libertés de la détention, le juge administratif regarde l'histoire sur le fond. Quelles sont les attaches de la personne en France? Est-ce qu'il a des liens, etc. Et donc, c'est important d'y aller au tribunal parce que ça montre au juge ou à la juge qu'il y a du monde derrière lui, que la personne n'est pas seule et qu'il a des raisons de rester en France. Donc, le collectif est très important. Voilà. Mais toutes les formes d'action, y compris les formes d'action les plus un peu plus brutes, des anti-CRA, elles sont hyper importantes. Voilà, tout le collectif est essentiel.
Et une autre action que vous menez, c'est avec ce film que vous allez diffuser à l'Assemblée nationale et au Sénat, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à pouvoir proposer une diffusion dans ces hémicycles?
Alors, il faut savoir qu'on a le droit de proposer à des députés ou des sénateurs, sénatrices, d'organiser une projection d'un film à l'Assemblée ou et au Sénat. Donc on a pris contact avec quelques députés, quelques sénateurs et sénatrices pour ce faire. Et donc là, tous ne répondent pas. En fait, une seule a répondu côté député, c'est Stella Dupont, donc qui est centre-gauche, qui a fait plusieurs visites en centre rétention, dont le centre rétention de Vincennes, et qui est très critique vis-à-vis de la rétention. Donc je lui suis reconnaissante de nous inviter à projeter le film à l'Assemblée. Et il y a une autre sénatrice, dont le nom m'échappe pour l'instant, mais qui est écologiste, et qui est partante également pour organiser en octobre une projection au Sénat. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si les députés et les sénateurs vont se ruer sur la projection, mais en tout cas, le fait d'être là, d'amener ce film là et de pouvoir dans ce lieu essentiel de la fabrication des lois et de la politique en France, c'est bien d'y aller.
Et ce sera ma dernière question, justement, vu qu'on parle de l'Assemblée nationale et du Sénat, est en train d'être voté un projet de loi, une proposition de loi pour augmenter la durée de rétention administrative pour des personnes qui ont commis un crime ou un délit dont la peine encourue est de 3 ans. Également se préparent des textes, notamment un règlement européen sur l'allongement de la durée de la rétention administrative. On est aujourd'hui le 12 et le 12, c'est aussi l'entrée en vigueur du pacte européen qui crée des zones de non-droit dans l'Union européenne. Toutes ces réformes, tout ce renforcement anti-immigration, pro-rétention administrative, vous qui avez fait un film justement pour dénoncer tous ces lieux, qu'est-ce que vous inspire l'avenir, en fait ? C'est ça ma question.
Je vois l'avenir un peu sombre, mais encore plus la nécessité de se battre. Déjà, pour faire ce film, j'ai passé quand même pas mal d'années devant le centre de rétention et j'ai vu la situation s'aggraver, j'ai vu les lois changer, la durée augmenter. Au début, quand j'y étais, c'était 45 jours de rétention, on est passé à 90 jours. Maintenant, on y arrive au fameux 210 jours. Alors, pour l'instant, ils disent c'est pour les étrangers dangereux qui ont eu une peine de prison, effectivement, passible de 3 ans d'emprisonnement. Mais en réalité, ça voudra dire que des étrangers qui auraient eu beaucoup moins et qui ont fait finalement quelque chose de pas très grave, mais qui seraient passibles éventuellement de 3 ans d'emprisonnement, seront de fait assignés à ce régime complètement carcéral, hein, parce que 210 jours, ça fait 7 mois d'emprisonnement. Enfin, de rétention, mais voilà, on est vraiment dans la prison. Et puis oui, de 18 mois, bon 18 mois c'était déjà énorme en Europe, de rétention possible jusqu'à 2 ans maintenant, c'est un peu déprimant. On rajoute là-dessus ce qu'ils appellent dans leur langage de techno les hubs de retour, c'est-à-dire décentraliser dans des pays tiers les centres de rétention. Je trouve ça absolument effrayant. Moi ça me rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, c'est des camps d'enfermement des étrangers, dont la France a une passion dans son histoire. Je trouve ça terrible. J'ose espérer, en fait, là où je garde un fond d'optimisme, c'est de me dire, bon, il faut se battre, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut de toute façon se battre, jusqu'à ce qu'un jour, les gens se réveillent en se disant, mais comment on a pu accepter ça, en fait ? De la même façon qu'il y a eu des camps de concentration, des camps d'extermination, qu'il y a eu de l'esclavage, plein de choses terrible à travers l'histoire, j'ose espérer que cette page-là aussi un jour va se tourner et que les citoyens diront mais comment on a pu accepter ça ?
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette émission vous a plu et que vous souhaitez pouvoir en écouter davantage, vous pouvez nous soutenir par des dons en vous rendant directement sur le site laredacpop.org. Jory found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks from the chain gang. I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. We'll be right back.
another man. She was down and he was up, had a gun in his hand. Bullets started flying everywhere, and people started to scream. Freedom! He was chasing. Spotlights! Sirens! Rifles! Firing! But he made it out! With the bullet in his back!
Yeah. Thank you. bien rétro.
Faut pas croire, mais on s'amuse bien, Radio Campus.
Radio Campus 88.3.
TVOD. TVOD.
Les membres de cette extraordinaire famille sont tous légèrement originaux.
Moi, j'aime pas les gens bizarres.
Ah merde, je peux pas encadrer les nazis.
Il paraît que vous avez battu des records d'audience sur 3 continents avec votre émission.
Radio Campus 88.3.
C'était vraiment très intéressant cette musique.
Sulla punta delle spade porti now.
Sulla punta delle spade porti now.
Porti now, porti giù, porti la me vera rosa. Porti now, porti giù, porti la me vera flu. Sulla punta delle spade porti way.
Sulla punta delle spade porti way.
Porti way, porti giù, porti la me vera rosa. Porti way,
porti giù, porti la me vera flu.
Sulla punta delle spade porti set. Sulla punta delle spade porti set. Porti set, porti giù, porti la me vera rosa. Porti set, porti giù, porti la me vera flu. Sulla punta delle spade porti scesi. Sulla punta delle spade porti scesi. Porti scesi, porti giù, porti la me vera rosa. Porti scesi, porti giù, porti la me vera flu. Sulla punta delle spade porti sink. Sulla punta delle spade porti sink. Porti sink, porti giù, porti la me vera rosa. Porti sink, porti giù, porti la me vera flu.
Sulla punta delle spade porti tre.
Sulla punta delle spade porti tre. Sulla punta delle spade porti tre. Sulla punta delle spade porti tre. Porti tre e porti giù, porti la me vera rosa. Porti tre e porti giù, porti la me vera flu. Sulla punta delle spade porti due. 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 Porti due e porti giù. Porti la me vera rosa. Porti due e porti giù. Porti la me vera flu. Sulla punta delle spade porti due. 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 Porti due e porti giù. Porti la me vera rosa. Porti due e porti giù. Porti la me vera flu. Sulla punta delle
Dunno Conquering Production. I will continue on to tell you, yeah. Jah Jah, ever faithful, ever willing, ever sure. Yo, Jah Jah guide and protect me from the foes of the enemy. Keep me from every negativity. Never let them stress me. He keep the blessings more plenty. Make the place bright and empty. Jah Jah guide and protect me from the foes of the enemy. Keep me from every negativity. Never let them stress me. He keep the blessings more plenty. Make the place bright and healthy. Yourself and watch you maneuver in. Now make them guess you up, confuse you up in them thing. You got to keep it moving or you'll be losing. Never abusing, just keep me cruising. I win a one up and Babylon brain polluting. It's
pictures to me. I salute you, I guide and protect me. From the foes and the enemy, keep me from every negativity. Never let them stress me, they keep them blessings more plenty. Make them days bright and empty, judge, I guide and protect me. From the foes and the enemy, keep me from every negativity. Never let them stress me, they keep them blessings more plenty. Make them days bright and healthy. We don't want no division, because we're on the same mission. Love is my religion, and judge, I give me the vision. Without discrimination, to each and every nation. This is a dedication, musical celebration. Conquer your vibration. Similar vibration from the king champion. Number one pan the land, and we can't go wrong. Can't judge, I give me the spiritual ammunition. Yeah. Original General Levy, pass it through. I will continue when I tell you. Yo! Judge, I guide and protect me. From the foes of my enemy, keep me from every negativity. Never let them stress me, the kingdom blesses more plenty. Make the days bright and empty, judge and guide and protect me. From the foes of my enemy, keep me from every negativity. Never let them stress me, the kingdom blesses more plenty. Make the days bright and healthy. You got to know yourself and watch how you maneuver in. Now make them guess you up, confuse you up in all them thing. You got to keep it open or you've been losing. Never abusing, just keep me cruising. I win a one of Babylon, brain polluting. It's only judge and warriors we are recruiting. And every righteous should we are salute. Judge, I guide and protect me. From the foes and the enemy, keep me from every negativity. Never let them stress me, the kingdom blesses more plenty. Make the days bright and empty. Judge, I guide and protect me. From the foes and the enemy, keep me from every negativity. Never let them stress me.
I'm telling you people, anywhere, we gotta raise, we gotta raise.
We gotta raise to run.
We gotta raise.
Eu sei que é difícil achar a solução. A crise é no mundo, não é só nossa nação. Viver no sacrifício e subcondição não pode ser um vício, não dá direito não. Fugir do precipício com determinação é apenas o início da nossa ressurreição. Tem falta de estrutura e falta de vergonha. Não fique aí parado esperando a cegonha, trazendo seu problema, mudar no dia a dia, muda um pouco do sistema. Eu sei que dá preguiça, cansaço e frustração, mas quando desanima vem o verso da canção e diz ciranda, cirandinha.
Radio Campus 88.3.
اللي وينك يا طبطب غدلة يا يقول أنا تغيرت عليه أنا زعل أولع ما هو كل همه الزاير دي يا طبطب